On est pire que dans l'erreur judiciaire, on est dans l'absurdité judiciaire. Il n'y a rien qui accuse d'une façon ou d'une autre Bruno et Pascal. Et d'ailleurs, eux sont sans voix. Ils disent, nous, on n'a fait que notre métier, on est pilote. Alors, c'est, vous êtes français, vous êtes en République dominicaine, vous êtes en danger.
Bonsoir, opération Dîner en ville, le nom d'une incroyable mission commando sortie d'un scénario de James Bond. À l'automne 2015, l'exfiltration en pleine mer de Pascal Forêt et Bruno Odos, deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison par un tribunal de Saint-Domingue pour un trafic de drogue à bord d'un jet privé. La retentissante affaire Air Cocaïne, deux hommes qui clament leur innocence et qui vont être secourus par un groupe d'amis qui, depuis la France, vont voler à leur secours. C'est cette exfiltration organisée à la façon d'une opération militaire que nous allons raconter ce soir, avec en exclusivité dans l'heure du crime l'homme qui l'avait pensé, préparé, exécuté, Christophe Naudin, qui publie un livre sur le sujet. Avec lui, nous allons également revenir sur les troublants dessous de cette affaire Air Cocaïne, officiellement une prise de 630 kilos de drogue, mais curieusement, une poudre blanche que personne ne verra. Une enquête dans le désordre, un procès expéditif, des peines écrasantes. Le salut des pilotes clamant leur innocence sera donc dans la fuite, quitte pour cela à enfreindre la loi et pour certains, dont notre invité Christophe Naudin, à payer au prix fort cette décision.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir donc, dans l'heure du crime, l'affaire Air Cocaïne, deux pilotes français qui vont finir par s'enfuir de Saint-Domingue à l'automne 2015. Mais pour eux, tout a commencé 2 ans auparavant sur un aéroport de cette île des Caraïbes. Ce 19 mars 2013, aux alentours de 22h, rien ne bouge sur les pistes de l'aéroport de Punta Cana à Saint-Domingue. Un jet privé, un Falcon 50, est garé au fond du parking. C'est un appareil qui appartient au roi de la lunette, l'entrepreneur Alain Flelou, mais qui est exploité par une société de leasing, la SNTHS. On aperçoit à bord le pilote, Pascal Forêt, 54 ans, effectuer les dernières vérifications, le check-up habituel avant le décollage pour la France, destination finale, le petit aéroport de la Mole, juste à côté de Saint-Tropez. Le copilote, Bruno Odos, 54 ans, compile lui les documents de vol, deux professionnels confirmés, des anciens militaires, sérieux et appliqués, qui n'ont jamais attiré l'attention. Deux autres Français sont inscrits sur ce vol, le dénommé Alain Castani, 66 ans. Il est inscrit comme personnel de bord, il travaille avec la société SNTHS, et en quelque sorte organiser ce voyage. Et puis Nicolas Pisapia, 37 ans, un homme d'affaires. Le pilote Pascal Forêt entend du bruit. Ce sont des bagages en nombre qu'on entasse dans la carlingue. La soute est pleine, tout le monde est là. Ne reste plus qu'à décoller, mais l'autorisation n'arrive pas. Vers 22h30, une rumeur gronde autour de l'avion. Un hélicoptère de la DNCD, l'agence anti-drogue dominicaine, braque ses puissants projecteurs sur le jet. En quelques secondes, des militaires en tenue de combat, casqués, cagoulés, équipés de pistolets mitrailleurs, encerclent le Falcon. Les pilotes sont aveuglés par les lampes torches. Personne ne bouge. La scène va durer une éternité, au moins 2 heures, entièrement filmée. Les images seront bientôt diffusées par toutes les télévisions, jusqu'en France. L'avion est mis sans dessus-dessous. Les militaires finissent par extraire tous les bagages. Les 4 Français sont menottés, conduits au terminal VIP. Ils sont accusés de trafic de stupéfiants. Une grosse prise! Le général Rosado Mateo, chef de l'agence antidrogue et qui a mené en personne la capture des trafiquants, parle de 630 kilos de cocaïne. Une marchandise que personne ne va voir, ni en vrai, ni en photo. Les autorités indiqueront que la drogue a été rapidement détruite, ainsi que le voudrait la législation locale. Tous les occupants du jet sont jetés en prison sans ménagement. 43 militaires et douaniers locaux, des complices présumés, sont également interpellés. Ils seront quasiment tous relâchés. Les autorités françaises n'ont pas été alertées de cette opération, jamais sollicitées. Il va s'avérer que l'enquête est pour le moins curieuse. signature absente, documents antidatés, conversation cockpit effacée. Les pilotes affirment tout ignorer du chargement. Ils rappellent qu'il n'est pas dans leur prérogative de vérifier le contenu des valises. Leurs avocats diront « Demanderiez-vous à un chauffeur de taxi de connaître le contenu des bagages de ses clients ?» Bonsoir Christophe Naudin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir avec nous dans le studio de l'heure du crime et de nous accorder la primeur de votre ouvrage qui sort « Air cocaïne, les dessous d'une mystification » aux éditions de l'Archipel Livre. Très détaillé, très fourni, très bien écrit et qui raconte toute cette histoire « Air cocaïne » du début jusqu'à la fin. On va évidemment la remonter le fil de cette story. Merci donc d'être là ce soir avec nous. Une question toute simple pour démarrer. Pourquoi avoir besoin d'avoir écrit ce livre? Parce que le puzzle n'était pas complet dans ce qu'on racontait?
Alors d'abord parce que c'est très compliqué pour la presse d'avoir les bonnes informations, de les recouper, de les regrouper. Ça n'a pas été fait à l'époque, évidemment, puisque la plupart des informations venaient de la presse dominicaine, qui elle-même répond aux obligations de l'État, donc on avait forcément une information qui était faussée. Et puis, je crois que le plus important, pourquoi écrire ce livre, c'est surtout pour rendre leur honneur, leur dignité à deux hommes respectables, formidables, et puis que moi aussi, je puisse récupérer l'honneur que j'avais de servir mon pays, de travailler ici et de défendre modestement, du mieux que je pouvais, les valeurs de la France, le droit et la vraie justice.
Alors ces deux hommes respectables que vous saluez ce soir et que d'ailleurs vous avez aidé de toutes vos forces physiques et morales dans cette histoire, ce sont effectivement les deux pilotes.
Absolument.
Est-ce que quand cette affaire éclate, quand ils sont arrêtés là-bas sur place, est-ce que vous les connaissez à cette époque?
Oui, alors j'en connais un, si vous voulez, plus que l'autre. Je suis l'actualité normalement, si vous voulez. Je suis évidemment très informé puisque, comme vous le savez sans doute, je suis expert en aéronautique et je suis l'ensemble.
Je l'ai pas dit, effectivement. Vous êtes pilote aussi, hein.
Oui, je suis pilote.
Vous êtes pilote,
professionnel,
ancien de la Marine nationale,
oui.
Effectivement, expert en aéronautique.
Absolument, voilà. Donc, je connais bien, c'est un sujet que je connais bien et que je défends depuis plusieurs années. Donc, je suis l'affaire, mais je suis l'affaire un petit peu comme tout le monde. Et très rapidement, au fur et à mesure que les éléments nous parviennent de République dominicaine, je m'aperçois que les choses ne collent pas du tout.
C'est
impossible.
Voilà, c'est-à-dire que dans la petite communauté des pilotes, mm-hmm. Vous vous parlez, je suppose. Hein, c'est un club. Voilà, c'est une espèce de club. Et donc, on connaît effectivement ces deux pilotes et
oui.
On se dit, c'est pas possible qu'ils soient embarqués dans cette histoire.
Alors, au départ, si vous voulez, on respecte, les déclarations dominicaines, hein, puisqu'elles émanent de la justice dominicaine, donc bon, mais on est quand même surpris, et puis au fur et à mesure que les éléments arrivent en France, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi, en fait, qu'il n'y a aucun sens dans tout ce qui s'est passé, et donc il faut qu'on suive ça de près.
Alors on rentre un peu dans l'histoire, Christophe Naudin, j'ai parlé de cette espèce de montagne de drogue qui se trouverait dans ce jet, dans ce Falcon, qu'en est-il de ces valises? Est-ce qu'on sait? Il y a de la drogue ou il n'y en a pas? Parce que c'est un vrai mystère.
Alors, il y a deux choses.
C'est Robert Houdini, là. C'est-à-dire que les valises, elles rentrent, elles sortent, mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, d'abord, on n'a jamais su combien il y avait de valises en question. Puisque dans les valises qui ont été présentées au tribunal, ont été rajoutées les valises personnelles de Messieurs Forêt, Odoz, Castagny et Pisapia. Et elles ont donc été comptées comme contenant la quantité que vous avez indiquée. Alors, est-ce que c'est 630 kilos? Est-ce que c'est 700 kilos? On ne sait pas, de toute façon. Mais une chose est sûre, on a refait des calculs mathématiques compte tenu de la masse volumique. Et de toute façon, on n'arrive pas à faire tenir 630 kilos de drogue dans 26 valises.
Et on ne la voit pas, cette drogue?
Non, personne ne la voit. Personne ne la voit. Ni les accusés, qui ne savent pas de quoi ils sont accusés au départ. Et la police non plus ne la présente pas. Il n'y a pas une constatation en flagrant délit de ce que contiennent les fameuses valises qui ont été chargées dans l'avion. Donc voilà, on est sur la parole en fait des gens qui procèdent à cette arrestation.
Et ce qu'il faut dire, Christophe Nauzin, c'est que effectivement vous dites que les deux pilotes et c'est les deux passagers de l'avion ne sont pas manifestement au courant de ce qui leur arrive à ce moment-là. Pourtant, les charges vont leur être signifiées très vite, hein, quasiment dès l'arrestation.
Alors oui, bien sûr, ou dans les heures qui vont suivre. Alors l'arrestation elle-même, si vous voulez, l'opération n'a pas été filmée en réalité tout de suite. Elle a été refilmée après dans les nuits où ils ont rejoué l'ensemble de l'opération.
Je croyais que c'était en direct. Non,
c'est pas du tout en direct.
On a fait, alors comme dans un film,
oui.
On a fait une deuxième prise.
Ils ont fait une deuxième prise, on leur a fait rejouer tout ça. Puisque à l'origine, sauf erreur de ma part, enfin bon, ils nous le diront après, mais je crois qu'ils sont restés 4 heures menottés à plat par terre sur le tarmac, sans savoir ce qui leur arrivait, avec un fusil mitrailleur pointé sur la tempe.
La nasse se referme sur les deux pilotes et les deux passagers. Pas question de les laisser quitter l'île pour les autorités. L'instruction de ce dossier va être longue, lente et tortueuse. Il faudra attendre 2 ans pour que s'ouvre leur procès. Les 4 occupants du Falcon sont tous incarcérés. Les pilotes Pascal Forêt et Bruno Odos sont transférés à la prison d'Anamouya, placés en quartier de haute sécurité où on leur rase la tête. Les visites s'effectuent au compte-gouttes. Les deux hommes ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ont beau répéter qu'ils ignorent tout de ce transport, ils restent accusés d'un trafic qui se chiffrerait à quelques 20 millions d'euros. Leurs affaires risquent même de se compliquer car la France a ouvert de son côté une enquête sur les vols du Falcon, rebaptisé d'emblée Air Cocaine. Quelques mois auparavant, 9 décembre 2012, le jet avait été observé sur le petit aéroport de la Mole à Saint-Tropez. Pascal Forêt et Bruno Odos étaient déjà aux commandes de l'appareil en ce milieu de journée, même passagers. Des témoins avaient alors assisté à une scène intrigante. Le portail ouvert de l'aéroport, 2 voitures approchant le Falcon, 2 hommes descendant pour en extraire des valises qui semblaient sales et couvertes de boue, plutôt lourdes au regard des efforts déployés. Le convoi avait ensuite disparu et dans la foulée, les gendarmes de Saint-Tropez prévenus de ce manège. La juge marseillaise Christine Saunier-Ruelland est persuadée que cette navette privée dissimule en fait un trafic de drogue. Le 22 mai 2013, elle vient interroger les Français à Saint-Domingue. Ils sont mis en examen. Suit en France une série d'arrestations, celle des affréteurs du jet et des responsables de la société SNTHS. Les mois passent et les récriminations des amis des pilotes, constitués en France en comité de soutien et de leurs familles, ne semblent pas émouvoir outre mesure les autorités dominicaines. Le 8 mai 2015, la juge Elka Reyes, après 4 décisions reportées, décide du renvoi des 4 Français devant un tribunal. Les avocats des pilotes, à l'époque Jean Reynard et Éric Lefrançois, et celui du membre d'équipage Alain Castani, maître Karim Beylouni, soutiennent que le trio n'avait pas à vérifier les bagages de leur unique passager. Argument repoussé. Le 29 mai 2015 s'ouvre le procès qui va durer presque 3 mois. Le procureur Milciades Guzman affirme que les valises ont été introduites frauduleusement dans l'appareil, un trou percé dans le grillage de l'aéroport. Le 14 août, les 2 pilotes et les 2 passagers sont condamnés à 20 ans de prison, la peine maximale. Bruno Odos évoque un cauchemar. Pascal Forêt, une catastrophe, surtout pour sa famille. Il est père de 4 enfants. Christophe Nauzin, ce soir dans le studio de l'heure du crime, est auteur du livre qui sort en ce moment même, Air Cocaine, les dessous d'une mystification, aux éditions de l'Archipel. Alors, les 2 pilotes et puis leurs 2 passagers sont condamnés. 20 ans de prison, c'est une peine extrêmement lourde qui d'ailleurs, je crois, n'a jamais été appliquée à Saint-Domingue concernant ce genre de trafic de drogue. Est-ce que c'est à ce moment-là, Christophe Nauzin, que vous prenez, vous, dans votre tête, la décision finalement de faire quelque chose, qu'on ne peut pas en rester là, il va falloir les aider, ces pilotes?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que là, on a passé beaucoup d'épisodes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, que ce soit Jean Reynard, Éric Lefrançois, moi-même, le comité de soutien de Pascal et de Bruno, dirigé par Philippe Henneman, qui est également un ancien de la Marine nationale, on a joué la carte de la justice dominicaine. Mmh. C'est-à-dire qu'on a non pas cru que ce serait la même chose que la justice française, mais on a essayé de respecter le droit. Donc on s'est rendu, en tant que témoin de la défense là-bas,
oui, tout à fait.
On s'est rendu 8 fois. Donc le magistrat qui présidait la cour, il savait qu'on venait de France exprès pour témoigner. Et à chaque fois, il y a eu un renvoi, c'est-à-dire qu'on venait pour rien. Mmh. C'est-à-dire qu'on nous renvoyait en nous disant « Ah, il y a un problème, machin, renvoie. »
Donc, vous avez
renvoi, il y en a eu 22.
Vous avez le sentiment qu'on vous balade, là, en ce moment.
C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, surtout, qu'on veut les condamner, quoi qu'il arrive. Mmh. Et puis, un jour, on décide de venir sans prévenir. Donc, on se planque dans un hôtel et on attend. Et là, le procureur, ce jour-là, le matin, dit « Cet après-midi, nous entendrons les témoins de la défense. Mmh. » Comme nous sommes sur place, mais qui ne le sait pas, nous débarquons, costume, cravate, impeccable, etc., rasé de près, au tribunal. Et là, la fureur extrême, parce qu'il ne pensait pas qu'on viendrait. La seule chose qui l'intéressait dans son interrogatoire, c'est comment avions-nous payé nos billets d'avion. C'était tout ce qui l'intéressait.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et il nous a empêché de parler. Bon, bref, au bout d'un moment, c'était quand même un cirque extraordinaire parce que on était plus qu'au théâtre, si vous voulez. On était au cirque. Mmh. Au cirque judiciaire dominicain. Et puis, au bout d'un moment, quand même, la présidente, quand même un peu réalisé que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait un aller-retour de 14 000 kilomètres, a fini par dire « Je veux entendre ce que ces témoins français ont à dire ». Et là, on a expliqué la réglementation internationale, on a expliqué l'annexe 17 de l'OACI, on a expliqué que la responsabilité de ce qui était embarqué dans un avion commercial, dans un vol commercial, c'était la responsabilité du pays d'escale, celle de la police dominicaine, celle de...
Mais pas celle des pilotes.
Mais hein, jamais celle des pilotes, si vous voulez. Quand vous partez en vacances, c'est le pilote qui vient vérifier les bagages des passagers.
Mais pas celle des pilotes. Alors vous allez évidemment témoigner, vous serez là au procès.
On sera présent
alors,
au procès.
En quelques mots, Christophe Dodin, quels sont ces hommes que vous voyez qui sont accusés? Les deux pilotes, ils disent qu'ils vivent un cauchemar. C'est oui. Déjà le cas à ce moment-là?
Oui, ils sont déprimés. Ça fait déjà 1000 jours qu'ils sont en République dominicaine. 1000 jours, donc c'est beaucoup quand même. Ils ont revu très peu leur famille. Leur famille n'a plus de revenus, puisque les deux épouses ne travaillaient pas. Ils ont chacun 4 enfants. Mmh. Donc,
compliqué.
C'est compliqué. Enfin, je veux dire, les familles vivent grâce au soutien de tout un comité. Mmh. Et nous, on est un petit peu désarmés par rapport à ça. À côté d'eux, il y a Castani. Qui est le broker, c'est-à-dire celui qui a vendu les vols.
C'est ça, c'est une espèce d'organisateur, quoi.
C'est l'organisateur, voyages, c'est le commercial, oui. Qui en principe ne doit pas être sur un vol, si vous voulez, mais bon, là, il est là. Oui. Alors, par une magie un peu spéciale, il a réussi à se faire déclarer sur la GENDEC, la General Declaration, comme membre d'équipage, mais il n'est pas membre d'équipage de quoi que ce soit, enfin, je veux dire, il n'a aucun rôle à bord. Et puis, il y a le fameux passager, Nicolas Pisapia, qui, en fait, est l'ancien garde du corps d'un ami de Monsieur Castani, Franck Collin, qui a des activités nocturnes assez variées. Voilà.
D'accord.
Ces gens-là. Donc, nous, on en connaît deux.
Oui, c'est ça.
Mais... Et il y a 2 autres Français qui sont également victimes d'un déni de justice.
Alors, vous en connaissez deux. Juste après le procès, le comité de soutien va évidemment bouillonner. Etc. Et vous racontez dans votre livre que c'est Aymeric Choprade qui est dans le comité de soutien, qui est alors au Front National, qui vous appelle pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire, évidemment. Il va y avoir d'autres sympathisants, je préfère le dire tout de suite, du FN qui vont se retrouver dans l'opération. Je vous pose la question, c'est une opération politique ou pas?
Non, pas du tout. En fait, effectivement, Aymeric Choprade, que j'ai connu il y a très longtemps, qui était mon éditeur et qui n'était pas à l'époque au Front National, bon, et s'est trouvé être au Front National pour des raisons...
Non, je vous pose la question parce
que... Non, mais
il
n'y a aucun problème, je réponds, pour des questions d'opportunité politique. Et il me demande, il m'appelle pour me dire, écoute, il faut qu'on les sorte de là, tu sais faire, est-ce que tu veux t'en occuper? Je ne donne pas de réponse positive immédiatement. Je lui dis, écoute, j'ai une condition, c'est quand même de poser la question à Pascal et Bruno directement. Et une fois que Pascal et Bruno nous auront dit il faut vraiment qu'on parte parce que sinon on va péter un plomb, il a voulu ramener lui des gens qu'il connaissait dans l'équipe.
Les préparatifs de l'opération baptisée Dîner en ville ou Dîner à Paris vont aller bon train. Il s'agit de sortir du piège de Saint-Domingue, les deux pilotes français. Ils sont en résidence surveillée dans l'attente de leur procès en appel, sans véritable espoir d'être acquittés. Dans les jours qui suivent leur condamnation, les pilotes du vol Air Cocaïne, Pascal Fauré et Bruno Audos, reçoivent la visite du Français Christophe Naudin. Ce spécialiste d'aéronautique et de questions de sécurité et de défense est venu s'assurer que les deux hommes avaient bien l'intention de s'évader. Naudin obtient une réponse positive. Les pilotes disent vivre un enfer, ils sont prêts à quitter l'île à n'importe quel prix et peu importe s'ils doivent rendre des comptes à la justice française. Christophe Naudin, l'ingénieur en quelque sorte de cette opération, nom de code dîner en ville, un dîner promis aux deux pilotes à Paris, a déjà évalué plusieurs scénarios. Une exfiltration par les airs, mais celle-ci, même si elle serait la plus rapide, est techniquement trop risquée. Il va être question également de louer un gros hélicoptère, mais réflexion faite et après avoir engagé des tractations sur place, cette location finirait par se savoir et attirer l'attention des autorités. Finalement, c'est une exfiltration par la mer qui est retenue. Y participeront le politique Aymeric Chopard, son ancien attaché parlementaire et ex-militaire Pierre Malinowski, lui aussi a été encarté au FN, et Christophe Naudin. Une vingtaine de personnes au total sont impliquées dans l'opération qui va nécessiter un investissement de 100 000 euros. À la mi-octobre 2015, Christophe Naudin est sur l'île de Saint-Martin pour prendre possession du voilier qu'il a loué, baptisé le Cormoran. Cap au large, les eaux internationales. 5 jours de navigation pour un rendez-vous fixé en haute mer avec un plus petit bateau surnommé le Crabe, dans lequel ont pris place Aymeric Chopard, Pierre Malinowski et les deux pilotes. Ces derniers ont été briefés des détails de l'opération. Il leur a été recommandé de s'entraîner à la nage. Ils ont reçu en dotation un gilet de sauvetage. Le 25 octobre, à 7h06, la jonction des deux bateaux est effectuée. 3 minutes plus tard, Pascal Fauré et Bruno Audos montent à bord du Cormoran. Les crustacés sont dans la nasse, annonce alors un message codé. Le Crabe peut repartir tranquillement vers Saint-Domingue. À l'hôtel où ils étaient en résidence surveillée, les deux pilotes ont laissé toutes leurs affaires, y compris leurs uniformes, afin de ne pas attirer l'attention. Les autorités locales vont mettre du temps à se rendre compte de cette disparition. Après une longue navigation, les pilotes embarquent sur un vol commercial direction la France. Mission accomplie. Même si les ennuis sont loin d'être terminés. Christophe Naudin, auteur ce soir du livre Air Cocaïne, les dessous d'une mystification, est notre invité dans l'heure du crime. Alors vous êtes évidemment à la manœuvre dans cette histoire et en première ligne, c'est vous qui avez imaginé cette sortie et cette exfiltration et dans les moindres détails. On a l'impression comme ça, quand je le raconte très rapidement évidemment, que ça a été simple, presque un jeu d'enfant, on va chercher deux personnes sur une plage, etc., on se retrouve en bateau, et puis hop, le tour est joué, mais ça a été tendu jusqu'au bout, il y a eu des incertitudes, ça a même failli capoter.
Alors ça a failli capoter à cause de la personnalité de Pierre Malinowski, qui a du mal à suivre, si vous voulez,
Les directives
de commandement, donc c'était un petit peu compliqué. Le chef principal était évidemment Aymeric Chopard, mais c'est moi qui avais conçu l'ensemble de l'opération, lui qui l'avait agréé et financé. Alors, il y a des choses plus complètes. Enfin, ils avaient laissé leurs affaires effectivement dans les chambres d'hôtel, mais l'équipe volaille, c'est-à-dire l'équipe.
Mais parce que vous donnez des surnoms.
Hein, des noms de code.
Des noms de code entre vous.
Pour alors, communiquer, ouais.
Je ne sais plus, il y a le grand écaillé. Des surnoms de cuisine.
Tout est lié en fait à la cuisine et à un dîner à Paris. Voilà.
C'est ça.
Donc moi, je suis le chef poisson, c'est-à-dire je suis responsable des opérations maritimes. Et pour vous donner une précision qui est quand même importante, le transbordement qui s'est fait au point Tango 1 puis Tango 3, en réalité, a toujours été en eau internationale.
C'est ça.
Donc en réalité, on n'a pas commis d'infraction. Il y a deux personnes qui ont commis une infraction, c'est Pascal Fauré et Bruno Audos. Eux ont commis une infraction,
oui,
puisqu'ils ont rompu leur contrôle judiciaire et qu'ils se sont échappés. Mais
ce sont des fugitifs pour Saint-Domingue.
Alors, ils deviennent des fugitifs pour Saint-Domingue, mais c'est évidemment un risque juridique qu'ils acceptent. Et dans le contrat, ce qui est quand même très important, ils savaient que nous les ramenions en France pour les présenter à l'autorité judiciaire française. On ne les ramenait pas en France pour qu'ils échappent à la justice. On ne les ramenait pas en France pour qu'ils fassent une moquerie, si vous voulez, face à des accusations qui étaient relativement graves. On savait qu'il y avait une affaire française que vous avez parfaitement évoquée. Donc on les ramenait en France pour qu'ils se présentent spontanément à la justice française.
Et tout le monde, évidemment, était d'accord.
Et eux aussi.
Et on
ne l'aurait pas fait. Voilà. Je vais également vous donner un petit scoop. C'est que pendant un moment, on a pensé, ça a été un grand, grand débat, on a pensé ramener également Pisapia et Castegni. Pourquoi ?
Les deux autres.
Parce qu'ils étaient également victimes, si vous voulez, d'un déni de justice. C'était un cirque absolument infernal. Et puis, il y a un événement qui a fait qu'on a renoncé, et j'en assume absolument la décision, c'est que Castegni a été renversé, volontairement ou pas, je n'en sais rien, sur la voie publique.
Par une moto, je crois, c'est ça ?
Voilà. Ouais. Et qu'il a eu les deux jambes brisées, je crois. Voilà. Mmh. Donc, il était hospitalisé. Mmh. Et là, ça changeait tout dans l'opération. Pour nous, c'était très compliqué de prendre en charge un malade, le retirer de l'hôpital, de le monter sur un bateau.
C'était impossible, quasiment.
Alors, ça devenait
mais vous
très
auriez
compliqué.
Pu prendre Pisapia, si je puis dire.
Alors, il y a un choix qui a été fait. Voilà, bon, j'assume, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Il y a un choix qui a été fait de dire on se concentre sur Pascal et Bruno, point barre.
Alors, Christophe Naudin, il y a toute une équipe, il y a une vingtaine de personnes, en fait, qui gravitent autour de cette opération.
À peu près.
Vous donnez que très peu de noms dans votre ouvrage, et on le comprend, évidemment.
J'en donne aucun, je crois.
Voilà, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui sous une menace judiciaire, si leur nom apparaissait, évidemment.
Ils ne seraient pas menacés judiciairement, mais ils n'aimeraient pas qu'on sache.
Ils
ont participé.
Vous avez une coordination sur place à Saint-Domingue ? Il y a un contact qui...
Alors oui, il y a un contact.
C'est ça.
On a une coordination sur place à Saint-Domingue et on a une coordination internationale avec une personne dans le livre qui s'appelle La Serveuse, qui est une personne formidable évidemment, et qui 24 heures sur 24, pendant l'ensemble de la durée de l'opération, je ne me souviens plus, ça doit être quelque chose comme 17 jours, à relayer, décoder les messages 24 heures sur 24 vers les directions dans lesquelles elle devait aller, puisque nous ne communiquions jamais en direct.
Oui, c'est ça. Il y a toujours un relais.
Il y a toujours un relais qui est codifié. Et elle a également, en code, elle reçoit en code, toutes les 12 heures, la position du goéland, qui est donc le bateau sur lequel on se trouve, qui ne s'appelle pas comme ça, bateau, du crabe, etc., et des différentes personnes qui agissent.
Alors, je parlais de James Bond, mais là, on est dans le bureau des légendes, parce qu'on est dans plein renseignement, là.
C'est une opération classique.
Que vous connaissez.
Ce
sont des méthodes que vous connaissez. Dites-nous, Christophe Naudin, comment sont-ils ces deux pilotes qui embarquent sur votre voilier ? Les deux personnes que vous récupérez, à quoi ils ressemblent ? Est-ce qu'ils sont heureux de vous voir ?
Ah oui, ils sont très heureux de me voir, mais ils sont extrêmement angoissés. Mmh. Extrêmement angoissés. Ils ont peur, parce qu'ils savent que si jamais on les rattrape, ils y retournent direct, et là c'est jusqu'à la fin de leur jour. Et donc on a prévu et on a étudié un dispositif pour que l'aspect psychologique soit bien pris en compte sur le bateau. Ils sont sur deux cabines séparées, parce qu'ils ne sont pas mariés, mais ils ont été obligés de vivre ensemble pendant 1000 jours. C'est quand même beaucoup, hein, pour deux personnes qui se sont passées de leur épouse.
C'est bon de s'éloigner un peu dans ces cas-là.
Nous avons amené dans le bateau leurs affaires personnelles venues de France, neuves, propres, etc. etc. Nous avons également pris des choses qui leur font plaisir, de quoi faire la fête, donc quelques bouteilles, des choses plutôt bonnes à manger, etc. etc. On a pris de la musique également, des choses agréables à entendre, et ils sont dispensés de toute tâche maritime, de tout quart sur le bateau.
Juste encore une question, très courte. Ils repartent comment les pilotes ? Ils ont des faux papiers ? Parce que là, ils n'ont plus de passeport, etc.
Non, ils ont leurs papiers en réalité. comme ils sont pilotes, en fait, ils ont un jeu de papiers chez eux en France que nous avons récupéré. Et donc,
ce sont des vrais papiers.
Ce sont des vrais papiers puisque les pilotes, pour se faire faire des visas, ont souvent deux passeports. Donc, on les a récupérés, on vient avec, et donc ils sont en règle.
Des pilotes qui n'en ont pas fini avec la justice française. Quant à l'artisan de leur exfiltration, Christophe Naudin, il va payer très cher son implication dans cette opération. Il va revenir à Saint-Domingue, contraint et forcé. Fin octobre 2015, dès leur arrivée sur le territoire français, les deux pilotes du vol Air Cocaïne, Pascal Forêt et Bruno Odos, avaient fait savoir aux autorités judiciaires qu'ils se tenaient à leur disposition. Le 30 octobre, ils sont interpellés à leur domicile respectif, l'un à Saint-Cyr au Mont-d'Or près de Lyon, l'autre à Autran dans l'Isère, transféré à Marseille. Le 3 novembre, à 9h30, Bruno Odos est le premier interrogé par la juge Sonia Ruelland. L'ancien capitaine de l'armée de l'air raconte dans le détail l'exfiltration. Il indique avoir été, tout comme son collègue Pascal Forêt, contacté par Christophe Naudin. Il détaille ensuite la présentation du plan de fuite et le départ en mer, explique que Christophe Naudin leur a remis des billets d'avion de la compagnie Corsaire à leur nom. Le 9 novembre, la chambre de l'instruction décide de maintenir les deux hommes en prison. Ils vont rester plus de 5 mois en détention provisoire, dans l'attente de leur procès avec 7 autres personnes, toutes soupçonnées de trafic de stupéfiants sur le sol français. Dès que la fuite a été constatée, le procureur général de Saint-Domingue, Dominguez Brito, a lancé un mandat d'arrêt international contre les pilotes. Ce mandat a été élargi aux protagonistes de l'exfiltration. Les trois Français, Aymeric Choprade, Pierre Malinowski et Christophe Naudin. Le 4 février 2016, Naudin est arrêté au Caire, en Égypte, où il était en voyage d'affaires. Il s'oppose à son extradition vers la République dominicaine, mais perd la bataille judiciaire. Un mois plus tard, il pose le pied menotté sur l'aéroport de Saint-Domingue, là où tout avait commencé 3 ans plus tôt. Le Français, qui n'a jamais caché sa participation dans l'exfiltration, répète qu'il voulait réparer un déni de justice. Il est condamné à 5 ans de prison et à 33 000 dollars d'amende. Incarcéré dans le quartier de haute sécurité de la sinistre prison de Nayayo. Des tensions éreintantes pour le Français qui perd 35 kilos. Après 2 ans de prison, ses avocats, à l'époque maître Éric Dupont-Moretti et Antoine V, négocient son transfert en France pour raison de santé. Il finira de purger sa peine en maison d'arrêt, son état de santé qui nécessite toutefois, dès son arrivée à Paris, une intervention chirurgicale. Christophe Naudin, c'est de vous dont on parle ce soir dans l'heure du crime, auteur du livre Air Cocaïne, les dessous d'une mystification. On n'est pas évidemment tout à fait à l'épilogue de cette histoire, puisque la justice actuellement est toujours en marche. Vous étiez en Égypte quand vous avez été arrêté. Vous ne saviez pas qu'on vous recherchait pour aller vous balader dans ces pays où Interpol peut frapper à tout moment?
Alors je savais que la République dominicaine avait, comme d'habitude, fait du bruit en disant qu'ils allaient émettre des mandats. Mais j'étais certain qu'il n'y avait aucune notice rouge Interpol, ni aucun mandat d'arrêt. Et j'en suis d'autant plus certain que j'ai réussi à aller en Égypte. S'il y avait eu un mandat d'arrêt, j'aurais été arrêté à Roissy, où la police française m'aurait arrêté chez moi. Donc il faut, c'est pas parce que les Dominicains disent qu'il y a eu une notice rouge qu'il faut les croire. Alors, il n'y avait pas de mandat d'arrêt international, ni contre moi, ni contre Choprade, ni contre Malinowski, ce que nous avons fait vérifier, évidemment, de nombreuses fois avant que j'aille en Égypte. Avant que lui se rende également en Russie.
Alors, le fait est, c'est que vous êtes arrêté, ça c'est une évidence, et c'est la réalité.
Mais sans mandat.
En Égypte, vous êtes arrêté et vous serez extradé vers Saint-Domingue.
Alors, je n'ai pas été extradé. J'ai été enlevé ou vendu par les Égyptiens aux Dominicains. C'est pas tout à fait pareil.
Disons-le comme ça, c'est votre version.
D'accord.
C'est votre version.
Non, il n'y a pas de mesure de droit.
Simplement, pourquoi vous, uniquement, êtes arrêté? Est-ce que les deux autres personnes n'ont jamais été inquiétées?
Alors, elles ont été inquiétées aussi, mais...
Elles ont voyagé.
Elles ont voyagé aussi, mais le problème, c'est qu'elles sont restées en Europe. Et moi, j'ai été dans un pays assez corrompu, l'Égypte, si vous voulez, où de nation corrompue à nation très corrompue, ils ont pu trouver un accord pour, d'une part, me maintenir en détention de façon illégale, et d'autre part, faire croire que j'étais extradé, pour me ramener en République dominicaine sans passer par l'Europe, pour ne pas que l'Europe, évidemment, défende mes droits. Et quand j'arrive en République dominicaine, le procureur de la République et toute la clique qui l'entourait me dit à ce moment-là, « Monsieur Naudin, nous constatons que vous êtes présenté librement en République dominicaine, donc nous procédons aujourd'hui à votre arrestation. » Ça, c'est la vérité. Donc il y a pas, il faut pas dire que c'est selon moi, c'est exactement ce qui s'est passé.
Alors, est-ce que vous auriez sans doute aimé rester beaucoup plus discret que cela et que finalement votre nom ne sorte jamais dans cette histoire?
Absolument.
Sauf que bah, y a beaucoup de personnes qui ont parlé, et très vite.
Alors en réalité, on s'est aperçu... au moment où on est arrivé en fait en France, que Aymeric Chopra nous avait trahi. D'une part, il n'est pas resté sur le théâtre d'opération le temps qu'il devait pour faire un certain nombre de choses. Et d'autre part, il a tout de suite revendiqué cette opération auprès d'un journaliste de Valeurs Actuelles en disant Pascal Faure et Bruno Rudeau sont rentrés en France. Donc évidemment, ça nous a complètement déstabilisés, ça a mis le feu. Quelques journalistes ont commencé à chercher dans les poubelles des compagnies aériennes et effectivement ont trouvé le vol Corsair sur lequel nous étions. C'est sans doute une erreur de ma part, ça c'est une erreur, j'aurais probablement dû rentrer avec un autre vol. Et à partir de ce moment-là, la presse a simplement dit « Pascal Faure, Bruno Audos, Christophe Naudin étaient ensemble dans le même avion ».
D'accord. Donc c'est une indiscrétion qui vous coûte très cher.
Qui me coûte extrêmement cher. C'est une trahison, hein, quand même, de la part de Aymeric Chopra. Parce qu'il n'y a aucun doute, hein, on sait que c'est lui. C'est une imbécilité de la part du journaliste de Valeurs Actuelles, que je ne citerai pas puisqu'il n'y est plus. Pour l'instant, je ne le cite pas. Et effectivement, ça nous a conduit à ce qu'une formidable réussite devienne petit échec.
Et que vous soyez finalement surexposé. Je voudrais que vous nous disiez un mot de votre séjour carcéral à Saint-Domingue, cette prison de Narayo. C'est un enfer pour vous. Vous avez vécu...
Ah oui.
Vous êtes resté 2 ans là-bas, hein, c'est ça?
Oui, un petit peu moins, mais enfin, globalement, c'est ça. Alors d'abord, j'ai vécu une période de détention extrêmement pénible en Égypte, où aucun droit n'est respecté, et où la diplomatie française ne peut rien faire, ou ne veut rien faire. Enfin, je pense pas qu'elle veuille pas, mais en tout cas, elle ne veut pas se fâcher avec ses partenaires. Bon, pareil en République dominicaine, j'arrive, et la République dominicaine, si vous voulez, c'est un pays de façade. La façade est belle, c'est peint, c'est beau, il y a la mer, etc. L'arrière sale est absolument terrible. Et là, je suis arrivé dans une prison... d'abord j'ai dû prendre mes marques, j'avais été un peu affamé et déshydraté pendant plusieurs semaines, donc j'avais pas toute ma tête tout de suite. Et puis petit à petit il a fallu que je m'adapte, pareil dans un quartier d'haute sécurité avec des gens qui étaient des tueurs en série, des grands narcotrafiquants, des sicarios extrêmement dangereux, et je me suis adapté. Parce que j'avais aussi la chance, dans ma tête, de savoir que je n'avais rien fait de mal.
Un an après le retour en France de l'homme qui les avait exfiltrés, Christophe Naudin, les pilotes et leurs complices présumés vont être jugés devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ici aussi, ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. Le lundi 18 février 2019, les pilotes du Falcon Air Cocaïne, Pascal Faure et Bruno Audos, ainsi que 7 autres personnes, se retrouvent dans le box des accusés de la cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence. Tous accusés d'un juteux trafic de stupéfiants entre les Caraïbes et la France. L'aéroport de livraison étant celui de la Mole à Saint-Tropez. Les 2 autres occupants du vol Air Cocaïne, Alain Castani et Nicolas Pisapia, sont absents. Le premier, après avoir été condamné à Saint-Domingue, a été rapatrié en France, beaucoup trop malade pour être jugé. Son cas a été disjoint. Le deuxième, lui aussi condamné à Saint-Domingue, est assigné à résidence dans ce pays avec interdiction de le quitter. Les pilotes vont réaffirmer leur innocence, indiquant qu'ils ignoraient tout du contenu des bagages des passagers embarqués dans le jet privé. Après 7 semaines d'audience et un réquisitoire fleuve où le ministère public a demandé jusqu'à 25 ans de prison, les 2 pilotes écopent de 6 ans de prison. Ils sont désormais dans l'attente de leur procès en appel, dossier qui reste donc en suspens. Le 12 mai 2018, à 10h15, Christophe Daudin est lui sorti de la prison de Villepinte. Suspension de peine pour raison médicale. Son avocat, Stéphane Monod, qui s'était inquiété au mois de février de sa dégradation physique, révélant l'existence d'une tumeur, déclare alors « C'est une très bonne nouvelle, cela a été une procédure longue et il va maintenant pouvoir se reposer et se soigner, sans jamais oublier, évidemment, l'affaire Air Cocaïne ». Christophe Naudin, vous êtes ce soir notre invité dans l'heure du crime. Avec le recul aujourd'hui et les mois et les années qui ont passé, votre long séjour en prison à Saint-Domingue, est-ce que c'était une erreur, cette opération, et de vouloir à tout prix libérer ces deux pilotes ?
Une erreur certainement pas, parce que, je veux dire, sur les 40 ans qui les ont condamnés, moi j'ai fait 2 ans, ça veut dire qu'ils ont économisé 36 ans de détention. Donc je ne regretterai jamais. Aujourd'hui, ils sont libres, on se parle, etc. On n'a pas à négocier, si vous voulez, comme ça, avec la vie des hommes. Je leur ai fait gagner un peu de temps.
Vous leur avez fait gagner un peu de temps, mathématiquement.
Et j'en ai perdu un peu, moi.
En tout cas, vous en avez perdu un peu de l'autre côté, avec ce sablier inversé, j'ai envie de dire. Mais est-ce que le jeu en va... est-ce qu'il en valait la chandelle ?
Alors, ça, c'est une grande question. Peut-être qu'on y répondra un autre jour. Je le crois, parce que je pense qu'aujourd'hui, les relations internationales ont changé, et que les postures diplomatiques, notamment des pays démocratiques, occidentaux d'une façon générale, ne sont plus les bonnes. Il faut savoir qu'on est face à des pays du Sud aujourd'hui qui utilisent la justice de l'otage, c'est-à-dire qui fabriquent des affaires fictives, c'est le cas de Air Cocaine, il n'y a jamais rien eu dans ce truc-là, mais ça permet à des pays qui n'ont aucune légitimité dans le concert international de négocier avec la France, d'avoir quelque chose à échanger. Et ça, il faut le dénoncer. Mais c'est dû aussi au fait que la diplomatie française ne fait pas assez pour récupérer immédiatement, sans négociation, des personnes incarcérées à l'étranger. Je pense à l'Indonésie, notamment, ou d'autres pays.
Alors, je ne vais pas me faire le défenseur du Quai d'Orsay, mais parfois c'est très compliqué.
Mais je ne dis pas que ce n'est pas compliqué. Mais à partir d'un certain moment, si vous voulez, il faut qu'on ait une position claire. Alors, je sais bien que c'est pas à la mode, hein, de dire bon, mais voilà, ça c'est un sujet grave, et je pense que ça doit changer. Et aujourd'hui, je ne découragerai jamais quelqu'un qui voudra s'extraire d'une justice qui est là pour le malmener et pour le rendre otage.
Alors, on revient un petit peu au dossier proprement dit. Vous dites, les pilotes, il n'y avait rien à leur reprocher. C'est en montage. Ils ont été condamnés à Saint-Domingue. Ils sont partis avec vous. Ils ont été condamnés par la France. Alors, la France, que je sache, ce n'est pas une république bananière.
Aujourd'hui, non. Ils ne sont pas condamnés par la France. Aujourd'hui,
ils attendent leur procès en appel.
Voilà, ils attendent leur
condamnés
procès en appel.
En première instance.
Aujourd'hui, ils sont toujours considérés comme...
Exact, c'est vrai.
Voilà. Bon. Donc c'est important de savoir qu'ils sont innocents.
Ils ont été condamnés en première instance, et lorsqu'on entend...
Alors pourquoi ?
L'avocat général à la cour d'assises, c'est des mots très durs.
Alors c'est des mots très durs, mais c'est très simple à comprendre. La juge d'instruction que vous avez citée, Mme Sonia Ruelland, a eu... pour des raisons qui lui sont personnelles, de vengeance envers son état-major, sans doute le système, repris ad hoc l'ensemble des éléments de procédure de la justice dominicaine, qui ne valent rien. Je le démontre dans le livre, avec les centaines d'exemples que je livre.
Ce que vous dites, c'est que le dossier français, ça serait le calque du dossier dominicain, c'est
ça ? Mais je l'affirme. Alors certes, il y a un volet français qui concerne effectivement Monsieur Castagny, qui concerne Monsieur Collin, qui concerne...
Oui, il y a beaucoup de noms.
D'autres personnes, ouais. Etc. On va pas embrouiller l'histoire avec ça. Donc, il y a un volet français. Messieurs Forêt et Odos soient entendus comme témoins, ça ne me choquerait pas. Mais par contre, qu'ils soient considérés comme complices, parce que la République dominicaine les a considérés comme complices, il faut quand même arrêter un petit peu les choses.
Oui.
D'autre part, moi, j'ai été entendu par Mme Sonia Ruelland. La juge d'instruction française. Et je peux vous dire, et je le dis de façon très libre aujourd'hui à votre antenne et à vos auditeurs, elle n'avait aucunement envie d'entendre la vérité ou les choses telles qu'elles étaient. Elle instruisait à charge.
C'est votre parole, évidemment, elle n'est pas là.
Ça n'est que ma parole.
Pour répondre, donc, on enregistre votre parole.
C'est mon sentiment, mais j'ai quand même eu un contact avec elle qui a duré moins de 14 minutes et elle avait absolument pas du tout envie d'entendre des gens.
C'est votre parole, Christophe Nauzin, et effectivement, elle vous appartient. Vous parliez des pilotes qui donc se seraient retrouvés dans cette espèce de NAS et qui n'avaient pas à vérifier les bagages, etc. On l'a bien raconté, ça.
Oui.
Il n'y a pas de souci. Vous êtes toujours en contact avec eux,
bien sûr,
avec les deux pilotes.
Oui, absolument. Oui.
Qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Alors malheureusement, du fait du contrôle judiciaire qui a été décidé par cette même juge d'instruction, ils n'ont pas le droit d'exercer dans l'aéronautique, donc ils ont perdu leur licence. Je pense qu'ils l'ont perdu à jamais du fait de la visite médicale. Également, ils n'ont pas le droit, de mémoire, d'approcher un aéroport à moins de 3 km. Mmh. Donc il y en a un qui fait du bûcheronnage dans la montagne et qui n'a pas envie de voir qui que ce soit. Et l'autre qui a travaillé un moment comme ambulancier et aujourd'hui qui a un autre petit travail de faible rémunération, mais rien à voir avec le niveau de vie qu'ils avaient avant.
Vous ne regrettez rien, mais vous avez beaucoup perdu dans cette histoire, Christophe Nauzin.
Alors moi, pas trop. Moi, j'ai perdu un tout petit peu de ma santé.
Bon, ce qui est déjà pas mal.
Oui, mais bon. Mais par contre, moi, j'ai repris, par contre, normalement, mon travail, etc., mon appartement. Enfin bon, j'ai pas eu de problème.
Pas de regret. Pas de regret.
J'ai pas de regret.
Merci beaucoup Christophe Nauzin d'avoir été ce soir l'invité de l'heure du crime pour nous parler de cette incroyable odyssée Air Cocaïne, les dessous d'une mystification, et un livre qui est édité aux éditions de l'Archipel. Affaire qui n'est pas close, il reste un procès. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble avec nous cette heure du crime.